6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa et Thomas.
Alors aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 février, la Saint-Valentin arrive dans 5 jours et nous souhaitons également penser à nos célibataires sur Phare FM cette semaine. Nous sommes en présence de Thérèse Argaud qui est essayiste, thérapeute de couple mais sexologue aussi. Et dans la problématique du célibat, vous abordez donc vraiment la sexualité, Thérèse.
Ah oui, c'est intéressant. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas de vie sexuelle. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, on a réduit ces dernières années la sexualité à l'aspect génital. À une sexualité, celui ou celle qui a un rapport sexuel et vraiment de l'ordre de la pénétration sexuelle. Je suis désolée de dire les choses crues, mais c'est comme ça que collectivement on envisage la sexualité. Donc, toute personne célibataire, elle semble comme asexuée ou n'ayant pas de sexualité. Et il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la vision qu'on a et beaucoup de célibataires souffrent de cela parce que la dimension sexuelle de leur existence n'est pas prise en considération.
Bien justement, Thérèse Argaud, certains parlent d'hypersexualisation de la société de par la publicité, les séries qui sortent aussi, les films. Et on aimerait justement un petit peu voir avec vous votre point de vue sur cet aspect-là d'hypersexualisation. Est-ce qu'aujourd'hui on parle plus de sexe qu'avant ? Est-ce qu'il y a plus de pression sur les personnes au niveau de la sexualité ou non ?
On est en plein paradoxe dans notre société parce que effectivement, on peut tous observer qu'il y a une hypersexualisation qu'on peut voir à la fois dans les films, dans les séries, dans les publicités, dans les musiques. Le sexe semble absolument partout envahir toutes les sphères de notre société. Et pourtant, ce qu'on peut observer, c'est que dans l'intimité des couples, le sexe est en train de disparaître. Le dernier essai qui a été publié là, chez Albin Michel, le titre c'est « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» parce qu'en bandeau, il est écrit sur le livre « Dans 10 ans, les couples cesseront de faire l'amour ou pas. » C'est-à-dire, si on ne change pas notre façon de voir la sexualité, on peut observer une disparition des relations sexuelles au sein des couples. C'est-à-dire qu'à la fois, on parle tout le temps de sexe, mais on le fait peu. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une contradiction là. C'est comme si, à force d'être omniprésent, on en oublie en fait le sens de la sexualité. Alors, le sexe est omniprésent, oui, mais pour faire vendre aussi, il faut bien comprendre que la pulsion sexuelle, elle est utilisée pour provoquer l'acte d'achat. Donc, dans notre société de consommation, elle est nécessaire pour vendre un yaourt ou une voiture. Et on voit bien qu'on est sans cesse sollicité dans nos pulsions, mais pour consommer. Alors que la sexualité, elle peut être aussi le lieu de la rencontre, de la relation, et cela n'est pas du tout exploré dans notre société. Et ce ne sont pas du tout ces messages-là que l'on reçoit. Donc, dès lors que la sexualité est vécue comme juste un aspect pulsionnel et pas relationnel, eh bien, c'est une sexualité qui, à la fois, semble omniprésente et en même temps disparaît au sein des couples, au sein des foyers qui veulent s'aimer.
Alors, on a envie de vous demander, mais comment faire le tri dans tout ça, finalement ? Ça veut dire que je ne devrais pas acheter des choses qui vont me pousser à vivre une sexualité comme ça ?
Je ne devrais pas acheter des choses. Comment faire le tri ? Il y a quand même une vraie remise en question de notre modèle social. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que, vous voyez bien peut-être que mes propos s'inscrivent aussi dans une transition écologique qu'on est obligé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que la société de consommation où tout s'achète et on le fait seulement sous l'envie, eh bien, c'est un désastre. On le voit bien au niveau écologique, mais c'est aussi un désastre au niveau de l'écologie, on va dire, humaine, des relations humaines. Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est cependant là des relations et des amours. Donc, il y a quand même quelque chose à retravailler en soi. Et donc, on va retravailler sur la question de la pulsion sexuelle qui est amenée à être apprivoisée, qui est amenée à être éduquée. La pulsion sexuelle, comme j'ai déjà pu vous le dire là dans cette petite introduction, c'est qu'elle est composée d'émotions négatives accumulées tout au long de la journée. Ces émotions, eh bien, elles sont amenées à être reconnues, nommées, exprimées, gérées, pour pouvoir s'en libérer. C'est-à-dire vivre une vie libre, c'est pas une vie qui est soumise à nos pulsions. C'est d'arriver à voir quel est mon bien et pas seulement faire les choses quand je veux, comme je veux. C'est pas ça être libre.
Et bien justement, on va parler de ces pulsions un peu plus tard dans cette heure, parce que c'est vraiment intéressant et ça mène beaucoup de questions au niveau notamment de la pornographie, de la masturbation. Ça arrive dans quelques instants.
6h, 10h, c'est Positive Morning avec Lisa et Thomas.
Alors Thérèse Argaud, on vient de parler de la société, et si on parle société actualité, on entend parler de plein de scandales, de l'âge de consentement, l'âge légal à 13 ans. On entend aussi parler beaucoup d'abus sexuels. Comment se reconstruire sa sexualité finalement après tout cela ?
Alors, vous posez tout de suite la question de comment reconstruire et vous avez raison parce que je pense que ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que les violences sexuelles, on dit violence parce que il y a des conséquences très graves sur la personne. Pendant pas mal d'années et puis peut-être pendant des siècles, je pense qu'on a sous-estimé les conséquences des abus sexuels sur les victimes. On l'a pu le voir dans différentes sphères, hein, que ce soit dans des sphères religieuses ou des sphères politiques, enfin peu importe les milieux, on n'a pas vraiment pris la mesure de ce que ça signifiait pour l'individu. Et pour faire simple, hein, c'est-à-dire que quelles sont les conséquences sur une personne qui a été considérée comme un jouet sexuel, comme un objet. Une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et là, il va y avoir vraiment un travail de reconstruction à faire dans le regard qu'on le porte sur soi. Et c'est ça qui est vraiment immensément abîmé au travers de ces actes-là. Et c'est pour ça qu'ils sont hautement condamnables. Donc aujourd'hui, déjà, il y a une première étape, c'est que on dit que la parole se libère, c'est que les victimes osent dire ce qui s'est passé et c'est fondamental, c'est essentiel. Et puis, il va y avoir une deuxième étape, c'est vraiment la reconstruction, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces victimes. Alors moi, je peux vraiment en témoigner, c'est que dans mon cabinet, c'est au moins une fois par jour que j'ai des personnes qui sont des victimes d'abus sexuels. Alors évidemment, on va dire que c'est une déformation professionnelle, mais les chiffres sont alarmants sur ce sujet-là. Alors, je distinguerai aussi différents types d'abus, si on le met aussi dans une perspective un peu plus large. Il y a à la fois donc ceux qui sont dénoncés actuellement, on est en plein affaire Duhamel suite au livre de Camille Kouchner. Donc là, on a vraiment des abus sexuels d'une certaine époque, et je fais exprès de le dire parce que c'est une génération qui est en ce moment montrée du doigt. Ça avait commencé aussi avec le consentement de Vanessa Springora et avec des adultes qui finalement ne voyaient pas le problème et même justifiaient leurs actes dans une certaine idéologie. La pédocriminalité dans le post-mai 68 ne posait pas de problème, voire même était quelque chose qui était valorisé. Donc, on voit bien au travers de différentes pétitions et tout ça. Donc, on a vraiment des abus sexuels liés à un contexte particulier. Donc, ça, c'est important. On les voit aujourd'hui. Et moi, ce que je voudrais déjà dire pour vraiment que nos contemporains prennent conscience de l'ampleur du problème, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'abus sexuels qui sont dus à une autre forme d'idéologie qui est venue aussi par l'impact de la pornographie. Il faut savoir, donc, elle est ultra consommée et en fait, elle a des conséquences aussi. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'enfants qui vont reproduire les actes sexuels qu'ils ont vus dans les images pornographiques auprès de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, donc au sein des foyers. Et là, ce n'est pas au nom, comment dire, d'idées ou de maître, c'est qu'il y a une reproduction à partir des images qui ont été vues. Donc, c'est aussi un autre phénomène. Et puis, on parlait de ces pulsions sexuelles qui ne sont pas éduquées. Mais moi, je m'inquiète, mais vraiment, je m'inquiète pour les générations futures, parce que dès lors qu'ils sont biberonnés à la pornographie depuis leur enfance et leur adolescence, ils n'ont pas appris à gérer la pulsion sexuelle. Donc, on a potentiellement, on va dire, des abuseurs sexuels, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui ne savent pas gérer leur pulsion. Je veux, je fais. Je veux, j'y vais. Je vois telle personne, j'ai envie, eh bien, je pose l'acte. Et qui ne savent pas se retenir, finalement, qui ne savent pas gérer leur tension sexuelle. Et ça, c'est grave, très grave. Donc, on peut faire un petit peu le bilan et puis reprocher tous les abus sexuels d'une certaine époque, mais n'oublions pas ceux qui se passent actuellement. C'est grave ce qui est en train de se passer.
Donc, si je comprends bien, Thérèse Argaud, vous êtes pour une ouverture de la parole, mais aussi un message porteur d'espoir qui veut dire qu'on peut guérir, on peut se reconstruire, et enfin, que l'éducation, la pédagogie est vraiment importante sur ces sujets-là.
Ouais, exactement. Et je vous remercie de le repréciser, parce que c'est très important que vous tous qui nous écoutez, vous ayez vraiment ça au fond de votre cœur et que vous puissiez le transmettre aux gens qui vous entourent, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Et moi, j'aime beaucoup ces phrases qui me guident dans mon travail, c'est la vérité vous rendra libre, la vérité qui libère, et cette libération de la parole, donc d'arriver à s'ouvrir à quelqu'un, de sortir du secret, c'est ça qui nous guérit profondément. Et alors, par contre, je vous invite vraiment à le faire dans un cadre avec une personne qui est dans une écoute bienveillante. Les réseaux sociaux ne sont pas vraiment le bon lieu pour, mais sont même n'est pas le bon lieu pour s'exprimer, parce que voilà, on n'a pas de ce vis-à-vis et cette relation, mais allez vous confier. Moi, je suis bouleversée par toutes les personnes qui viennent en consultation et qui me disent à chaque fois cette phrase-là. Je n'ai jamais dit à personne ce que je vais vous dire là. C'est la première fois que j'en parle. Et après la consultation, je dis, comment vous sentez? Quel soulagement, je me sens beaucoup mieux. Donc, vraiment, sachez qu'il y a vraiment on a aujourd'hui même des moyens pour accompagner ces souffrances-là, pour les guérir, pour les cicatriser. C'est pour ça que moi, je vous dis aussi, je suis thérapeute de couple. Et ce travail de thérapie, moi, me donne énormément d'espérance pour notre époque. Alors que, à la fois, j'alarme sur les différents problèmes.
Merci beaucoup, Thérèse Argot, pour ces réponses.
Vous nous accompagnez de 9h à 10h pour parler de pulsions, de sexualité, d'abus, mais aussi de pornographie. Et c'est d'ailleurs les thèmes qu'on va aborder dans cette deuxième partie d'émission. On va aborder les pulsions, creuser un petit peu de ce côté-là, mais aussi on va parler de pornographie, qui est un de vos chevaux de bataille actuellement, Thérèse.
Oui, mais c'est vrai que j'en parle beaucoup, j'en parle tout le temps, mais j'en parle parce que personne n'en parle et que je me sens bien seule. Et que d'ailleurs, les médias m'appellent en me disant « mais vous êtes un peu une des seules à dénoncer la problématique de la pornographie ». On sent que chacun prend des pincettes parce qu'on est beaucoup sont mal à l'aise avec le sujet, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, j'en parle parce que le phénomène est… Est trop important pour le garder tabou. On ne peut plus, éviter ce sujet-là. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et alors, c'est un sujet de société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la pornographie comme une problématique à part. Bon, il se fait que des adolescents un peu curieux voudraient voir quelques images sexuelles pour se donner des idées. Non, on n'est pas du tout dans cette perspective-là avec la pornographie. Avec Internet, ça s'est démocratisé. Et ce sont des enfants et des adolescents qui sont exposés alors qu'ils n'en ont pas du tout voulu regarder ces images. Donc, c'est grave, très grave. Et c'est une forme d'abus sexuel. C'est une forme de viol de l'imaginaire. Et je pèse mes mots quand je le dis parce que je vois les conséquences auprès de nos concitoyens.
Alors, Thérèse, on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission de ces changements hormonaux qui peuvent avoir lieu. Et puis, très jeune, déjà, des pulsions qui naissent. D'où est-ce que viennent ces pulsions? Est-ce que c'est possible de gérer les pulsions qu'on peut avoir sexuelles? Qu'est-ce qu'on peut en faire, finalement?
Alors, je voudrais déjà commencer par distinguer ce qui est de la pulsion sexuelle, le besoin sexuel et le désir sexuel. Alors, peut-être même, je vais commencer par le besoin sexuel. On va dire, nous, les êtres humains, nous avons des besoins sexuels. Alors, ce besoin, il viendrait dans le fait que est inscrit dans notre cerveau le fait que nous sommes faits pour nous reproduire. Et donc, nous sommes faits pour rencontrer une personne de sexe différent avec qui on peut s'accoupler pour reproduire l'espèce humaine. Alors, ce besoin sexuel, il n'est pas tout à fait... vital, mais il n'est pas vital puisque nous sommes capables de vivre heureux sans avoir de relations sexuelles et nous sommes aussi capables aujourd'hui de ne pas avoir de relations sexuelles pour avoir des enfants, c'est-à-dire qu'avec toutes les procréations médicalement assistées, ben, ça met bien à mal ce besoin sexuel aujourd'hui. Donc, c'est pas très juste de parler de besoins sexuels actuellement. Il y a les pulsions sexuelles. Les pulsions sexuelles, c'est autre chose. La pulsion sexuelle, c'est une tension qu'on va ressentir et cette tension, donc, elle est composée d'un amas d'émotions négatives accumulées tout au long de la journée, de la semaine, frustration, angoisse, stress, énervement, colère, tristesse. Et ces émotions, elles cherchent à sortir. Et une façon de sortir, c'est au travers donc du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel apporte un certain soulagement, une certaine détente, un certain bien-être. Donc, ce que je cherche, c'est l'état de bien-être quand je me sens dans un état de mal-être. La pulsion sexuelle, du coup, elle est comme une sorte de baromètre dans nos vies. Elle vient nous dire si nous sommes dans un état de mal-être ou de bien-être. Donc, forcément, elle est interrogée. Le plaisir sexuel ne va pas, va apporter un bien-être sur le moment de quelques secondes, de quelques minutes, quelques heures maximum. Mais après, la cause de ma frustration, de mon stress, de mon angoisse, de ma colère, de ma tristesse, elle n'a pas changé avec le plaisir sexuel. Ça veut dire que ça revient encore en moi. Donc, face aux pulsions sexuelles, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à comprendre, à reconnaître cet état de mal-être et à interroger, à essayer de reconnaître, tiens, qu'est-ce que je ressens actuellement, émotionnellement, donc nommer ces émotions pour ensuite pouvoir les gérer. Tiens, quand je suis triste, qu'est-ce que je fais? En colère, qu'est-ce que je fais? En stress, qu'est-ce que je fais? C'est la question de la gestion émotionnelle. Et une troisième chose, c'est la question du désir sexuel qui est encore autre chose. Le désir sexuel, il naît dans la rencontre et dans la relation. C'est parce que je vois cette femme sublime, merveilleuse, c'est parce que je vois cet homme magnifique que j'ai envie de faire l'amour avec cette personne. Donc, ça suppose une rencontre et une relation. Donc, ce sont trois choses différentes et dans notre pensée collective, on va dire cette chose-là, « Oh, les hommes, ils ont plus de besoins sexuels que les femmes. Mmh. » Ou « Oh, les hommes, ils ont plus envie que les femmes. » Mais c'est complètement faux de dire ça. La seule chose qu'on peut observer dans l'expérience, c'est que souvent, encore majoritairement, les hommes vont plus exprimer d'une envie sexuelle, mais pas parce qu'ils ont plus de désir. C'est parce qu'en fait, en réalité, ils ont beaucoup de pulsions qu'ils ne savent pas gérer. C'est pas tout la même chose. D'ailleurs, je serais même capable de vous défendre que les femmes, au départ, sont des êtres plus sexuels que les femmes sont des êtres plus sexuels que les hommes.
Eh bien, on aime déconstruire les idées préconçues qu'on peut avoir. Alors, si je comprends bien, Thérèse Argot, dans ces questions de désir, de pulsion, il y a vraiment une question d'analyse, de regard au plus profond de soi et de se dire qu'est-ce que cela décèle, qu'est-ce que cela veut dire. Et on est un peu loin des conseils simplistes qu'on peut avoir quand tu as un désir, quand tu as une pulsion, fais des pompes et ça passera.
Ah ouais, ouais. Non, ça, c'est vraiment important. Il ne suffit pas seulement faire du sport. Bien sûr que le sport va permettre d'évacuer des pulsions. Mais non, il faut aller visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, on est comme dans une espèce de lutte, de combat contre ces pulsions. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Non, c'est d'aller comprendre qu'est-ce que ça vient me dire. Qu'est-ce qui se passe actuellement qui fait que je me sens en tension? D'où vient cette tension? Et là, la seule façon de savoir, c'est de s'en ouvrir à quelqu'un qui est capable d'écouter et d'interpréter ça. On n'y arrivera pas tout seul. Il faut arrêter de se croire qu'on peut. On est des êtres de relation. On a besoin des autres pour avancer. Et donc, d'aller se confier à l'intérieur. Je sens qu'il y a beaucoup de pulsions sexuelles en ce moment. C'est-à-dire, je sens qu'il y a un état émotionnel qui n'est pas très confortable. Qu'est-ce qui vient me dire? Et alors, après, on peut modifier sa vie pour se sentir bien. Et quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans son travail, dans ses relations, dans ses amitiés, il n'est pas envahi par des pulsions et il n'a pas un rapport compulsif avec la sexualité.
Et encore une fois, et à juste titre, vous rappelez de l'importance d'être accompagné dans ces périodes-là. Merci Thérèse Argot.
On parle également de pornographie parce que parfois, la pornographie va être une réponse à la pulsion. D'ailleurs, un sujet qui vous tient à cœur, on le disait plus tôt dans l'émission. Vous en parlez beaucoup sur vos réseaux. Qui est-ce que ça concerne, la pornographie? Quel est son impact réel?
Alors, la pornographie, ça concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire des enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants, les adultes, tout le monde. Et ça concerne les hommes et ça concerne aussi les femmes, il faut le dire, le redire, parce que beaucoup de femmes sont sous l'emprise de la pornographie et se sentent encore plus coupables parce qu'on a fait un peu une histoire de garçon. Pas du tout. Et ça concerne bien donc tous les milieux, c'est aussi important de le dire. Donc, ici, vraiment, l'industrie pornographique a réussi un tour de force, c'est de la rendre accessible pour tout le monde. Donc, ça, c'est une première chose. Après, on parle aujourd'hui aussi des célibataires dans votre émission. On a un peu cette croyance collective de dire, après tout, quand on est seul et quand on est célibataire, la pornographie, la consommation de pornographie se justifie totalement. Parce que ça semble être une espèce de béquille pour répondre aux fameux besoins sexuels, aux pulsions sexuelles qui sont dans l'être humain et qu'on ne pourrait pas évacuer autrement qu'en cherchant une satisfaction sexuelle. Eh bien, ce que je montre et je démontre, c'est que c'est une fausse croyance que de croire que j'arrêterai le jour où je serai en couple, j'arrêterai le jour où je serai dans une relation stable, j'arrêterai le jour où ça ira bien dans ma vie sexuelle. Eh bien, sachez une chose, c'est parce que vous consommez la pornographie que vous êtes aussi célibataire, c'est parce que vous consommez la pornographie que vos relations sont compliquées, et c'est parce que vous consommez la pornographie que votre vie sexuelle est insatisfaisante. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous pensez être un palliatif est la cause de votre souffrance actuellement. Et je le dis avec conviction, avec force, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on peut constater dans le cabinet. En arrêtant la pornographie, vous allez enfin voir quelle est finalement la vraie cause de votre situation, peut-être de ce célibat. Pourquoi est-ce que vous êtes célibataire? Alors que la pornographie est bien comme être, comment dire, est une mauvaise réponse à une vraie situation. Vient mettre comme une sorte de pansement, quoi, sur quelque chose qui est difficile à vivre dans votre vie. Alors, pour chacun, c'est différent. Et je peux vous l'expliquer de plein de façons. Alors, on a peu de temps ce matin, mais pour vous dire un peu de quoi il s'agit. Par exemple, quand vous regardez de la pornographie, eh bien, ça s'accompagne d'une masturbation. La masturbation apporte un plaisir. Le plaisir, c'est comme une sorte de shoot de dopamine, d'accord? Et donc, il vient de dire au cerveau que finalement, il a bien rempli sa mission qui est celle d'avoir des relations sexuelles. Donc, on avait dit qu'on a, dans notre cerveau, on est programmé pour avoir des relations sexuelles et ce plaisir-là vient nous dire « Ok, c'est bon, t'as fait le job ». Ce qui va se passer, c'est que la pornographie va envoyer un message faux au cerveau. Il va faire croire, en fait, on va se mentir à nous-mêmes que on a des relations sexuelles régulières, donc que ça se passe bien à ce niveau-là, alors que peut-être qu'on n'en a jamais eu, et peut-être qu'on est vraiment célibataire endurci. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est comme on reçoit ce shoot de dopamine, on ne va pas ressentir, par exemple, la motivation nécessaire pour avoir le courage d'aller aborder une femme ou un homme qui nous plaît, d'aller entamer une relation avec cette personne. C'est-à-dire que ça va jouer sur la motivation dans la rencontre amoureuse ou sexuelle. Et bon, ça c'est par exemple une des choses. Après, on peut en parler comme ça pendant des heures, et je viens de créer un programme digital, voilà, en ligne, un programme thérapeutique en ligne pour arrêter la pornographie, où j'explique ça en long et en large pour vraiment prendre conscience que la pornographie vient avoir un effet très négatif, extrêmement négatif sur nos relations, et particulièrement aussi pour les célibataires, ça vient empêcher notre capacité à pouvoir aimer et entrer en relation avec nous.
Vous nous rappelez donc, Thérèse Argot, que la pornographie concerne les célibataires, mais aussi les personnes en couple, et peu importe l'âge ou l'origine sociale, et vous faites bien de le faire, et aussi et surtout que la pornographie n'est pas une fatalité, et qu'il existe des supports et puis des accompagnements pour en sortir. Merci beaucoup, Thérèse. La pornographie attire ou est impliquée avec la masturbation. On entend plein de choses sur la masturbation. Certains disent que c'est nécessaire et bon pour la santé. Certains disent que ça rend aveugle et sourd. C'est des choses qu'on peut entendre quand on est adolescent. Quel est votre avis sur la question? Comment vous pouvez nous apporter des éléments essentiels?
Ouais. Alors déjà, une première chose qui est très importante, c'est que ces dernières années, on a associé masturbation et pornographie. Comme vous l'entendez depuis le début dans cette émission, je suis extrêmement intransigeante sur la pornographie. Pour être claire, il n'y a rien de bon dans la pornographie. Et donc, c'est quelque chose à arrêter immédiatement parce que ça vous fait du mal dans votre propre existence. Mais en revanche, la masturbation est autre chose. Beaucoup ont appris en fait la masturbation au travers du visionnage de pornographie et associent les deux. Et du coup, finalement, pose aussi un jugement sur la masturbation qui n'est pas tout à fait juste. On va distinguer les deux sujets. Ce qu'il faut absolument arrêter, c'est la pornographie, qui est en fait de la prostitution filmée, donc toute cette problématique de la prostitution et de toutes les conséquences que ça a. La masturbation, c'est autre chose. La masturbation, c'est d'abord une fonction naturelle que nous avons, nous les êtres humains, à pouvoir s'accorder un moment de plaisir par la stimulation des zones érogènes. Et je vous invite à distinguer trois situations différentes par rapport à la masturbation. D'abord, il y a la découverte de son propre corps. Il y a une chose qu'on ne doit pas apprendre aux enfants, c'est comment arriver à se procurer du plaisir sexuel, parce que très vite, ils le découvrent. Et très tôt, les jeunes parents qui nous écoutent le savent, très vite, les enfants vont explorer leur corps, et en explorant leur corps, découvrent qu'il y a des zones agréables, les fameuses zones érogènes. Ça, c'est l'exploration du corps et la connaissance du corps. Et c'est nécessaire de connaître son corps. C'est nécessaire de l'explorer. Ce n'est pas mal d'explorer son corps. Au contraire, ce serait plutôt très problématique quelqu'un qui n'ose pas toucher les parties de son corps comme s'il y avait une sorte de tabou, de résistance. Donc ça, c'est la connaissance qu'on a de son corps. Une autre chose, c'est l'usage que je fais de cette connaissance, l'usage que je fais de ce plaisir. Et on peut très bien se dire à un moment, tiens, j'ai compris comment m'accorder un moment de plaisir, le plaisir qui m'apporte du bien-être. Du coup, à chaque fois que je me sens mal, triste, en colère, stressée, inquiète, j'ai une façon vite d'évacuer ça au travers de la masturbation. Et là, ça pose problème. Pourquoi? Parce que la masturbation n'est pas une réponse à cet état de mal-être. Ça ne va rien changer à votre vie qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est une palliatif à un état de mal-être, mais ça ne change pas l'état de mal-être. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, simplement, on peut s'interroger en disant, tiens, quand j'ai régulièrement recours à la masturbation, qu'est-ce que ça vient me dire? Quelles sont les tensions? C'est toujours la même chose de la gestion émotionnelle. Donc, ça, c'est quand la masturbation est compulsive. Et puis après, il y a autre chose, c'est qu'elle peut, elle peut être vécue aussi, l'exploration du corps et la découverte de ces zones de plaisir peuvent être vécues dans une intention, on va dire, positive pour soi-même ou dans une relation. Et dans ces cas-là aussi, c'est plutôt une joie partagée, une complicité partagée. Et donc, on voit bien qu'il y a une intention très différente. Et donc, je distinguerai vraiment ces trois moments en fonction de l'intention, la découverte et donc la connaissance de soi, le côté compulsif pour gérer, pour se dégager en fait des émotions négatives, ce qui me semble plus problématique, de l'exploration joyeuse dans une relation ou bien avec soi-même. En tout cas, voilà, c'est une suggestion que je vous fais. Peut-être que ça va un petit peu déranger certains, parce que la masturbation semble toujours un peu condamnée de façon comme ça, général, c'est intrinsèquement grave, ou alors être complètement libéré en disant « masturbez-vous, il n'y a pas de problème ». Ici, je vous propose quelque chose de beaucoup plus nuancé et qui me semble correspondre davantage à notre réalité.
Est-ce que naturellement, on ne crée pas des pensées ou on n'est pas vite tenté par aller voir des images pour encore plus donner de plaisir, justement, quand on a la masturbation ?
Oui, et alors ça c'est intéressant parce que en fait on va rechercher des images pour se stimuler et ce qui s'est passé pour beaucoup des jeunes d'aujourd'hui, c'est que au moment où le monde des fantasmes, c'est-à-dire de notre imaginaire érotique, se développe, c'est-à-dire à l'adolescence, les aînés qui nous écoutent aujourd'hui se rappelleront de ces moments à l'adolescence où on se fait des scénarios, on imagine des choses, on peut même dessiner des choses, on a vraiment toute cette créativité qui se développe à l'adolescence. Aujourd'hui, avec l'impact de la pornographie, eh bien, les jeunes et puis les jeunes adultes d'aujourd'hui ne font plus cet effort d'imagination, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé par eux-mêmes leur propre imaginaire érotique. Or, l'imaginaire érotique, c'est nécessaire à la vie sexuelle heureuse. C'est pas mal en soi d'avoir cet imaginaire. Au contraire, ça vient apporter de la joie, ça vient enrichir notre vie sexuelle. Le problème, c'est quand elle est prise en otage par une industrie pornographique. Donc, beaucoup ne savent pas imaginer par eux-mêmes. Et donc, vous verrez dans ce parcours que je propose pour arrêter la pornographie, eh bien, je vais inviter les gens à justement se réapproprier leur imaginaire, à développer leur créativité, au lieu d'être dépendant d'une industrie et de ces images qui sont préfabriquées et qui appauvrissent en fait notre imaginaire, qui appauvrissent notre sexualité.
6h, 10h, c'est Positif Morning avec Lisa et Thomas.
Thérèse Argaud, on passe la matinée avec vous, hein, de 9h à 10h, on a parlé célibat, sexualité. On a envie de vous demander quels conseils finalement vous nous donneriez en tant que célibataire, comment être patient sans trop griller d'étapes, comment vivre de façon saine sa sexualité, même peut-être après plusieurs expériences sexuelles qui ont été un peu, si je puis dire, ratées.
Quand on est dans cette période de célibat, je pense que c'est intéressant de s'interroger d'abord sur son désir. Est-ce qu'on désire être en relation ou pas, et d'être déjà en phase avec ça. Si on ne désire pas être dans ce célibat et qu'on souhaite être en relation avec quelqu'un, eh bien de s'interroger ensuite sur les causes de ce célibat. Et c'est intéressant finalement de se dire, d'interroger notre capacité à nous laisser aimer, notre capacité à aimer. Et on voit parfois que dans notre histoire, on a vécu des expériences de vie qui ont comme bloqué cette capacité à nous laisser aimer ou à aimer. Et ça, on peut les dénouer par un accompagnement. Et ça vaut la peine de le faire. Ce que je dis beaucoup aux célibataires que je reçois en consultation, parce que je reçois beaucoup, c'est que le travail qu'ils font sur eux-mêmes pour comprendre ce qui les empêche de se laisser aimer ou d'aimer, c'est un travail nécessaire que tout le monde doit faire un jour ou l'autre dans sa vie. Et le célibat est une bonne période pour arriver à explorer ça. C'est-à-dire que cette souffrance, parce que parfois c'est une souffrance, elle donne la motivation d'aller explorer tout ça. Et c'est mieux de le faire quand on est célibataire plutôt que quand on est marié avec 4 enfants, d'aller explorer tout ça. C'est-à-dire que c'est mieux d'aller consolider sa vie, sa personnalité, avant de s'engager avec quelqu'un. Donc, je dis souvent aux célibataires, les problématiques dont vous me parlez, eh bien, je les entends aussi dans la bouche de personnes qui sont en couple et qui ont les mêmes défis. Sauf que, c'est plus compliqué, en fait, quand on est en couple, d'aller visiter son histoire. Et donc voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Oui.
On peut donc profiter de ce temps de célibat, entre guillemets, pour se préparer finalement à l'avenir, au couple et au mariage.
Exactement, mais c'est la meilleure chose à faire. On dit cette chose-là, hein, auquel je crois profondément, c'est que le couple heureux est composé de 2 célibataires heureux. Et comment est-ce que dans cette période de célibat, j'apprends à découvrir aussi, à être heureuse, à être heureux, et pas seulement en disant je remplis ma vie de plein de choses et je me dis j'ai besoin de personne. C'est pas de ça dont il s'agit, d'une espèce d'indépendance émotionnelle. Non, c'est simplement je reviens sur cette interrogation sur comment est-ce que je me laisse aimer ou j'arrive à aimer. Et plus je vais visiter ça, et bien plus je serai capable de vivre un couple heureux. Et il y a beaucoup d'exemples, hein, de personnes qui ont vraiment vécu cette période de célibat dans une vraie préparation aussi à la rencontre et qui forment des couples très heureux, bien plus que celles et ceux qui se sont mis rapidement en couple et qui n'ont pas vécu ça. Donc, le célibat est une belle période et le célibat, surtout, n'est pas une salle d'attente. Mmh. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. J'ai l'impression d'être dans une salle d'attente, j'attends mon tour. Et je vois au fur et à mesure mes amis qui se mettent en couple, je dis quand est-ce que ce sera mon tour ? Non, ce n'est pas un état de passivité en attendant que le prince charmant ou la princesse charmante arrive. C'est un état actif. C'est de comment est-ce que je vis pleinement ma vie et que je vis pleinement ma vie de femme ou d'homme dans cette situation-là et que je suis en relation. Voilà, donc ça, c'est important de se mettre dans une perspective dynamique et pas seulement dans une perspective du couple. Hein. Si je dis aujourd'hui, ici et maintenant, j'interroge ma capacité à être heureux, heureuse et donc ma capacité à être en relation dans des relations qui soient positives.
Mmh, merci. Un beau message d'espoir, Thérèse Argaud, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et c'est ici que s'achève notre matinée. Encore merci Thérèse d'avoir été avec nous. Et vous retrouvez Thérèse Argaud et plus d'informations sur son site thereseargaud.com.
Et pour continuer cette semaine, on se retrouve demain sur le célibat. Et puis nous, on vous souhaite une très belle journée.
Bye bye.